Voici la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Yves, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Jardinier de Versailles, on l'oublie parfois, pas Alain Baraton, hein, mais on oublie qu'il existe des cactés qui produisent des fruits comestibles.
Oui, les plus connus étant bien sûr les figues de Barbarie. À déguster aussi les fruits du dragon ou pitaya de l'Hylocérus undatus, un cactus originaire d'Amérique centrale. Cette plante est assez curieuse et elle produit des tiges qui peuvent atteindre 6 à 8 mètres de longueur et elle s'enroule autour d'un support comme par exemple le tronc d'un arbre.
Mais alors avant de fructifier, de faire un fruit, cette plante doit bien évidemment fleurir.
Oui, de belles fleurs blanches teintées de jaune, elles sont magnifiques, elles sont très grandes et elles font, pardonnez-moi, en moyenne 30 cm de diamètre. Elles dégagent un parfum délicieux de vanille et sont pollinisées par les chauves-souris, raison pour laquelle elles s'ouvrent à la tombée du soir, d'où ce joli surnom de belle de nuit.
De belle de nuit. Alors pourquoi ce nom de fruit du dragon aussi?
Je viens de vous l'expliquer, la plante s'enroule avec ses piquants autour par exemple des arbres. Et cette image rappelle à certaines populations asiatiques les créatures fantastiques souvent présentes dans leurs contes et légendes.
Mais vous nous aviez dit que ce cactus en particulier était originaire du continent américain, donc je comprends plus très bien.
Oui, vous avez raison. Alors. Mais dès qu'il fut découvert, il a immédiatement été diffusé partout dans le monde pour son goût et pour son intérêt décoratif. Là où bien sûr, le climat lui est favorable. Et avec un avantage énorme, c'est que ce cactus pousse dans des terres sèches, il est peu demandeur en eau. Donc c'est une plante qui a peut-être un bel avenir écologique.
Allez, raclez-vous la gorge, vous en avez bien besoin.
Le froid, petit verre d'eau,
c'est
un
le
café.
Froid, le froid. Et on l'a dit dans le journal, les maladies respiratoires viennent de baisse de température.
Docteur Baraton, vos bons conseils à présent. Béatrice vous demande, est-ce le bon moment pour déplacer un pied de rhubarbe?
Dans les revues horticoles, on vous dit le printemps ou l'automne. Moi, je vous dis que c'est possible. C'est possible parce que je l'ai fait, tout simplement. Donc, je vous conseille de le faire effectivement maintenant. Alors, on en profite pour les multiplier. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la séparation de touffe, de souche. On prend une bêche, on divise en deux ou trois le pied de rhubarbe, on le met là où on a envie de l'installer et on aura l'année prochaine d'autres pieds de rhubarbe. On peut aussi semer la rhubarbe, mais il est vrai que la rhubarbe est une plante qui n'a pas sa place que dans le potager. Je trouve que cette plante est joliment décorative. Et quand vous avez des pièces d'eau par exemple, mettez-la. Alors ne pas confondre la rhubarbe et le gunéra. Le gunéra, il y en a beaucoup qui confondent avec la rhubarbe. C'est une plante aux feuilles gigantesques, très décorative, mais qu'elle ne se mange pas.
Et la rhubarbe aime plutôt située, il ne faut pas que ça soit trop chaud, c'est plutôt à l'ombre,
c'est une plante
un peu humide.
Voilà. Je dirais que c'est une plante qui est centriste, elle n'aime pas les extrêmes, elle aime bien être à l'aise là où elle pousse, elle n'aime pas trop les terrains en eau. Et n'oubliez pas non plus, parce que c'est jamais très beau, la rhubarbe produit des grandes feuilles qui sèchent de temps en temps. Supprimer ces feuilles sèches, elles ne servent plus à rien et elles rendent la plante un petit peu disgracieuse. Et puis quand elle produit également de grands hampes florales, n'hésitez pas non plus à couper la hampe. L'intérêt, ce sont les feuilles, ou plutôt les cardes. Évitez de laisser produire les feuilles, ça épuise le végétal pour rien.
On parlait à l'instant des températures qui commencent à être négatives en France. Jules, à ce propos, qui a un rosier, des rosiers en fleurs, il vous demande s'il faut les laisser ainsi.
Ça, vous l'aviez déjà dit. Hein,
oui, alors, quand vous avez des enfants qui ont 7-8 ans et qui traînent le soir, et bien même s'ils n'ont pas envie d'aller se coucher, de temps en temps, il est bon de faire preuve d'un minimum soit d'autorité, soit de pédagogie. Il en est de même avec le rosier.
La métaphore est un peu bizarre, mais bon.
Les métaphores sont très bizarres. Non, simplement pour dire que de temps en temps, le rosier doit obéir à quelques règles simples. Donc, il doit rentrer en dormance et il ne peut pas rentrer en dormance en produisant maintenant des roses. Faites-vous plaisir, faites un petit cueillet, un petit bouquet, faites un bouquet à la personne que vous aimez, mais effectivement, vous pouvez maintenant couper toutes les fleurs. Le rosier doit rentrer en dormance et se reposer.
Mais alors, pour l'instant, on coupe les fleurs et vous aviez expliqué qu'il fallait le faire en deux temps, c'est-à-dire que pour l'instant, on coupe encore à une soixantaine de centimètres du pied et puis plus tard, on coupera plus bas, c'est
voilà,
ça?
Voilà, vous avez raison, vous avez deux tailles pour le rosier. La taille d'automne, la taille de printemps. La taille d'automne, c'est une mise au propre du rosier. On lui donne un aspect, une apparence présentable, esthétique pour l'hiver, pour que dans votre jardin, il n'y ait pas trop de désordre. On va le tailler d'une manière intelligente, on va créer de l'unité dans le massif, et on va effectivement supprimer les branches mortes, les branches mal positionnées, les branches gênantes, et les fleurs par exemple.
Armand a planté des poireaux en terre, il vous demande comment et faut-il les protéger du gel, ces poireaux en terre?
Je vais vous surprendre, je vais dire oui, mais attention, oui, mais Oui, je conseille de mettre un tapis de feuilles au pied des poireaux. Non pas pour protéger les poireaux du gel, ils s'en fichent, mais pour pouvoir les extraire quand la terre est gelée. On n'y pense jamais. Mais vous avez de beaux poireaux, vous avez prévu une soupe de poireaux le soir, très agréable avec les températures. Mmh. Oui, mais allez donc arracher des poireaux dans une terre gelée. Mmh. L'avantage du tapis de feuilles, cela vous permet de les arracher sans trop de difficultés.
Coralie voudrait savoir s'il est exact que la loi interdit de tailler les haies du 1er avril au 31 juillet.
Oui, mais cela ne concerne que le monde agricole. On parle des haies champêtres dans la nature, où effectivement, pour préserver les oiseaux et lutter au mieux contre la perte de la biodiversité, il a été interdit de tailler les haies à cette période de l'année. Donc vous ne verrez pas le long des routes, des voies communales ou dans les campagnes, des machines souvent d'ailleurs épouvantables qui ne taillent pas mais qui hachent les haies. Dans le jardin, il est possible de le faire. Mais je rappelle que souvent, il y a des nids d'oiseaux. On ne taille jamais une haie au printemps, je dis bien jamais, sans avoir pris le temps de regarder s'il n'y a pas des petits nids avec des oiseaux à l'intérieur.
Toujours à propos des haies, Rémi, ai-je le droit de planter des haies très épineuses pour me protéger des intrus ?
Oui, mais à condition que cette haie n'empiète pas sur le domaine public et ne devienne pas un danger pour le passant.
Et des haies, c'est pas là pour, enfin, ça ne doit pas ressembler à des fils de barbelés, quand même.
Ah, mais de temps en temps, si vous avez encore
en limite de propriété.
Oui, vous avez des catalogues de propriétés, de pépiniéristes, où l'on vous parle de haies défensives. Quelques arbustes, comme le Piraconta, ont des épines. Vous passez à fond dans une haie, vous ressentez complètement déchiqueté. Hein.
Rapidement, est-ce le bon moment pour rempoter les plantes d'appartement?
Oui, si les plantes ne sont pas en train de fleurir ou si elles ne vont pas fleurir dans quelques temps, c'est possible et on mettra toujours une plante dans un modeste pot, dans un pot à peine plus grand.
Un dernier conseil.
Très joli cadeau à s'offrir ou à offrir. Histoire surnaturelle de Grégory Roder et Stéphane Hett. C'est un beau livre qui a été fait par un docteur en biologie, un photographe de talent. C'est 20 histoires simplement incroyables d'alliances, de manipulations et de guerres entre petites bêtes et végétaux. Et c'est publié par les éditions Salamandre.
C'était Alain Baraton.